J'aimerais vous raconter le début d'une aventure. Il s'agit d'une aventure d'un petit hobbit. Si vous ne savez pas ce que c'est un hobbit, ce n'est pas très grave. Imaginez un petit homme assis devant sa maison sur une colline, une jolie colline, et il est assis sur un banc. À côté de lui, il y a un magnifique chêne centenaire, majestueux. Monsieur Saquet, c'est ainsi qu'il se nomme, fume la pipe. C'est un de ses passe-temps favoris. Il fait des ronds de fumée en rêvant. Il vit dans une région paisible. Sa famille est une famille sans histoire. Il est né dans une bonne famille. Il n'y a jamais eu d'aventure d'aucune sorte. Vous savez, les aventures, c'est quelque chose de mal vu. C'est pas pour les gens de bonne famille, parce que les aventures, ça amène des ennuis. Arrive un magicien, long chapeau pointu, manteau gris, bâton de pèlerin, longue barbe grise, sourcils broussailleux. Et devinez quoi ? Il s'arrête devant ce petit hobbit et lui propose de partir à l'aventure. Que nenni, il n'en est pas question. Jamais Monsieur Saquet ne partira à l'aventure. Quelle idée! Il envoie promener le magicien poliment, c'est quelqu'un de bien. Il ferme la porte et à la fin de la journée, il a oublié cette histoire. Il s'asseye devant son assiette, il s'est préparé un bon poulet rôti. Alors, il est assis devant sa table, le couteau à droite, la fourchette à gauche, le poulet devant lui. Il prend une bonne cuisse avec une peau bien croustillante, il y a un petit peu de jus qui coule. Et, et alors qu'il va mordre dans la cuisse, toc, 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 quelqu'un frappe à la porte. Alors il est obligé de reposer la cuisse, parce que quand même il ne peut pas laisser quelqu'un frapper sans ouvrir la porte. Et il va ouvrir la porte. Devant lui, il y a un nain. Un nain, boule à zéro, longue barbe. C'est pas ces nains, vous savez, qu'on trouve, qui sont tout gentils, tout jolis, dans les petits jardins. Non, c'est un nain qu'on trouve dans les histoires d'Heroic Fantasy. C'est un guerrier. C'est, voilà, il y a, c'est une montagne de muscles. Bien sûr, un nain se balade toujours avec sa hache de guerre et tout l'attirail qui va avec. Ben, la tranquille soirée qu'il avait prévue, ce ne sera pas pour ce soir-là. En plus, le nain entre, fait plus ou moins comme s'il était chez lui, s'asseye devant le bon repas qui avait été préparé et prend tranquillement la cuisse de poulet qu'il se met à manger. Monsieur Saquet n'ose rien dire. Toc, 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 on frappe de nouveau à la porte. Cette fois, il y a deux nains derrière la porte qui, eux aussi, entrent et se mettent à manger. Toc, toc, toc. Cette fois, c'est pas deux nains, c'est un tas de nains qui arrivent chez lui et ils se trouvent envahis. Et vous savez, ils ont bon appétit, alors ils ouvrent les armoires, ils mangent, ils rient, ils s'essuient les bottes n'importe où. 13 nains qui pillent son garde-manger, sa réserve de bière et de vin, qui salissent absolument tout, qui rôtent en mangeant grassement. Puis arrive le magicien qui, évidemment, avait tout orchestré. C'est le début d'une quête. En fait, ils se sont retrouvés chez le Hobbit pour partir à l'aventure. Parce que les nains sont à la recherche, comme tous les nains, d'un grand trésor, d'un immense trésor légitime. C'est l'héritage de leur peuple. Mais pour y aller, ils doivent braver maintes dangers. Les hommes, les elfes, les trolls, les gobelins et même un dragon. Monsieur Saquet fera-t-il partie de l'aventure ? Lorsque les nains se mettent à chanter en racontant tout ce qui les attend sur la route, Monsieur Saquet ne peut pas s'empêcher de rêver. De rêver de l'aventure qui l'attend. Mais les gens de bonne société ne partent pas à l'aventure. Il refuse et va se coucher. Le matin, en se réveillant, quelle surprise, l'appartement est vide, bien rangé. On dirait qu'il n'y a jamais personne qui est venu chez lui. Alors il lève un œil. Tout d'abord, il est content. Je me suis débarrassé de ses nains, je ne me suis pas amené d'ennui. Puis tout d'un coup, il réalise qu'il est passé à côté de la chose la plus incroyable qui pouvait lui arriver dans sa vie. Et que, en fait, au fond de son cœur, son plus grand désir était de participer à cette aventure. Et lorsqu'il réalise ça, il prend son sac et il court rejoindre les nains. Et j'aime bien les histoires. Parce que les histoires, parfois avec leur côté un petit peu féerique, on ne rencontre pas des magiciens, des nains, des gobelins dans notre monde, mais ces histoires nous parlent de nos aspirations les plus profondes. Et j'aimerais ce matin vous parler d'une aventure. Une aventure incroyable avec, à l'arrivée, un immense trésor. Mais sur la route, il y a aussi des dangers, des embûches, des ennemis, des pièges, de la solitude, le mal du pays. Mais il y a aussi des amitiés, des trésors cachés qui sont découverts, des paysages absolument fabuleux. Et je crois qu'au fond de nous, on aspire à entrer dans cette aventure. Mais vous savez, les gens bien ne partent pas à l'aventure. L'aventure dont je vais vous parler est une aventure à laquelle on aspire tous. Et il y aura ce matin, j'imagine, quatre sortes de personnes. Ceux qui refusent de partir parce qu'on est bien chez soi. Ceux qui partiront avec plaisir. Ceux qui sont déjà en route et qui seront fortifiés et encouragés. Ceux qui sont partis et qui se sont arrêtés par lassitude, par besoin de repos, parce qu'ils étaient blessés et qui sont invités aujourd'hui à reprendre la route. Je vais lire en Luc 10, versets 25 et 28. Un professeur de la loi se leva et dit à Jésus pour le mettre à l'épreuve. « Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi ? Qui lis-tu ? » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. » Alors non, je ne me suis pas trompé de PowerPoint, il s'agit bien du même texte qu'il y a 2 semaines en arrière. Mais il y a 2 semaines, je me suis arrêté surtout sur le second commandement, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et j'aimerais ce matin m'arrêter sur le premier. « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. » Et c'est un commandement qui est aussi présent en Matthieu, dans l'évangile de Matthieu. Les pharisiens apprirent qu'il avait réduit au silence les Sadducéens. Donc que Jésus avait réduit au silence les Sadducéens. Ils se rassemblèrent et l'un d'eux, professeur de la loi, lui posa cette question pour le mettre à l'épreuve. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Alors on voit qu'il y a quelques différences entre les 2 passages, puisque dans l'un, en Luc, c'est le maître de la loi qui donne les 2 plus grands commandements, et en Matthieu, c'est Jésus. Alors rien ne nous indique qu'il s'agit du même épisode. Mais en Matthieu, Jésus ajoute « De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Je suis profondément convaincu que Dieu est bon. Je suis convaincu que ce qu'il nous demande est non seulement saint et donc agréable à Dieu, mais aussi bon pour moi personnellement, pour mon entourage. Si ce que Dieu nous demandait de faire était seulement à moitié bon, ou en partie, ou à 90%, est-ce que Dieu serait vraiment bon quand il nous demande cela? Si Dieu nous demande de faire quelque chose, et là, c'est plus qu'une demande, c'est un commandement, c'est parce que nous avons besoin de cela. C'est bon pour nous. Et à l'époque de Jésus, les scribes, les pharisiens avaient fait la liste des choses que Dieu demandait à l'homme. Ils avaient recensé, je crois, 613 commandements. Et une des discussions, c'était de savoir quel était le plus grand commandement, les plus grands commandements, et les hiérarchiser. Ça ne signifie pas que les petits commandements ne sont pas importants, qu'on peut les oublier, mais s'il est dit qu'il ne faut pas tuer, ou s'il est dit qu'il ne faut pas... qu'il faut adorer Dieu seul, ce commandement est plus grand que celui de ne pas se prosterner devant Baal. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta force et de toute ta pensée. Et Jésus nous dit que c'est le plus grand des commandements. Et j'imagine que si c'est le plus grand des commandements, c'est aussi celui qui répond au besoin le plus profond de notre cœur. C'est celui dont nous avons le plus besoin. Et il y a un troisième endroit dans la Bible où ce texte est raconté, c'est en Marc 12, où un spécialiste de la loi s'approche pour demander à Jésus quel est le plus grand commandement. Verset 29, « Voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le deuxième. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. » Marc ajoute quelque chose. Il reprend le fameux Shema Israël. Peut-être que vous avez déjà entendu ça. Shema Israël, Adonai, Eloheinu, Adonai, Echad. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu. Le Seigneur est un. C'est une confession que les Israélites faisaient et font toujours. Chaque jour, écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, le Seigneur est un. Et ce verset vient de Deutéronome 6, verset 5, verset 4. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul et l'Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Et ce qui est frappant, c'est il y a d'abord cette confession de foi, le Seigneur est un, et ensuite, aime Dieu de tout ton cœur, et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. De quel commandement s'agit-il? Nous sommes dans le Deutéronome. Vous savez pourquoi on appelle ce livre le Deutéronome? Pourquoi les Grecs ont appelé ce livre le Deutéronome? Non, hein. Ça vient de Deutéronomos, c'est de la deuxième loi. Et en fait, quand on lit le Deutéronome, il y a Moïse qui se trouve sur une montagne et qui va rappeler toute la loi qui a été reçue par Israël. En Exode, quand Israël sort d'Égypte, Dieu leur parle et leur donne la loi. Et juste avant d'entrer en Canaan, 40 ans plus tard, Moïse sait qu'il ne peut pas entrer en Canaan. Et il rassemble le peuple et dit une deuxième fois la loi. Et en Deutéronome chapitre 5, donc un tout petit peu avant, il y a les 10 commandements. Et après le texte qui est là, les quelques versets qui sont là, il y a la suite de la loi. Et il dit, mais aime le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. C'est déjà une promesse de l'Ancien Testament. Et Jésus va reprendre cela. Et aimer Dieu, c'est le début de la plus grande aventure que vous allez vivre dans votre vie. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur. Dans la pensée hébraïque, le cœur, c'est le centre de la personne. C'est la chose la plus importante d'où découle tout le reste. Tout découle tout notre être. Donc il y a le cœur et puis de là découle la pensée, les émotions, l'intelligence. Autrement dit, il dit, mais Dieu de tout son cœur, c'est la chose la plus significative qu'on puisse faire. Et quand on y pense en français, c'est pas si différent. Allez dire à une femme, je t'aime de toute mon intelligence. Ou je t'aime de toute ma pensée. Ou pire, je t'aime de tout mon corps. Elle va vous regarder bizarrement. Sauf, si avant, vous lui avez dit que vous l'aimez de tout votre cœur. Et là, peut-être que les choses seront différentes. Alors, la Bible est très claire, hein, il s'agit d'aimer Dieu de tout son cœur. Il ne faut pas aimer notre femme par-dessus tout, mais Dieu. Mais je trouve que quand on aime Dieu de tout son cœur, c'est qu'on veut l'aimer avec toute notre personne. Tu aimeras le Seigneur de toute ton âme. L'homme n'est pas uniquement matériel. Il est composé d'une partie immatérielle qui subsistera jusque dans l'éternité, qui n'a pas besoin de corps pour être. Tu aimeras le Seigneur de toute ta force. Il ne s'agit pas simplement d'une contemplation de Dieu, mais il y a aussi l'idée de mettre toute son énergie, toute sa puissance à aimer Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que Luc dit de toute ton âme et de toute ta pensée. Et aimer Dieu de toute sa pensée n'est pas un choix, on n'a pas besoin de mettre nos pensées de côté pour aimer Dieu, mais au contraire, centrer nos pensées sur Dieu pour que nos pensées nous conduisent à aimer Dieu davantage chaque jour. Alors on pourrait ergoter longtemps sur la signification de ces termes, on pourrait développer cela de manière intéressante ou peut-être inintéressante sur pourquoi âme, pensée, cœur. Mais je crois que simplement ce qu'on peut retirer, c'est qu'il faut vraiment aimer Dieu avec tout ce qu'on est. Vraiment, on ne doit rien laisser de côté pour aimer Dieu. Nos sentiments, nos émotions, notre force, notre énergie, nos biens, d'autres cœurs, avec tout ce qu'on a, aimons Dieu. Et ce qui me frappe le plus dans ce commandement, c'est pas tant le fait que tout ce que j'ai doit aimer Dieu, mais c'est que le plus grand commandement est d'aimer. Pourquoi, puisqu'il s'agit d'un commandement, ne faudrait-il pas obéir à Dieu ? Tu obéiras à l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Ne serait-ce pas beaucoup plus logique ? N'est-ce pas en obéissant à la loi qu'on peut l'accomplir ? Et Jésus dit, mais tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et moi je me dis, mais quelle sorte de Dieu peut avoir envie d'être aimé avant toute chose. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour Dieu qui sont justes, des choses qui devraient plaire à Dieu, et pourtant qui ne lui plaisent pas parce qu'elles ne sont pas faites avec amour. Imaginons un couple. Le mari rentre à la maison, c'est l'heure du souper. Alors il s'assied à table, sa femme a préparé un bon repas, mais à contre-cœur. Elle amène la casserole au-dessus de la table, lâche la casserole, bon appétit! Et elle repart dans la cuisine, continuer ses affaires. À votre avis, comment va réagir le mari? Est-ce qu'il sera content? Après tout, il a faim, le repas est devant lui, c'est bon. La femme a accompli son devoir. Alors, je ne suis pas en train de dire que c'est forcément à la femme de cuisiner, puis que l'homme peut rentrer chez lui puis mettre les pieds sous la table. Je précise, c'est juste un exemple pour vous faire comprendre mon propos. Ça peut parfois être l'inverse, il y a d'autres fonctionnements. Je vous laisse regarder ça avec votre conjoint. Mais le mari dans cette situation-là, il sera probablement blessé. Mais pourquoi? En fait, pourquoi sera-t-il blessé? Parce que finalement, il mange et puis c'est bon. Après le repas, il est repu. Quoi demander de mieux? Je pense que c'est un exemple très culturel aussi, parce que je pense que, suivant d'où on vient, effectivement, l'homme pourrait manger à table tout seul et puis il ne serait pas du tout blessé, que sa femme ait juste amené la casserole sur la table et soit parti. Donc, imaginez un autre exemple, si ça ne vous parle pas du tout. Mais il va être blessé, en tout cas, quelqu'un de Suisse risque d'être blessé, parce qu'il s'attend à une relation, parce qu'il aime sa femme. Et c'est parce qu'il aime sa femme que quand sa femme arrive et fait son devoir juste par obligation, eh bien, il est blessé. Si le mari n'aime pas sa femme, il n'aura pas de problème, il va se dire « je serai tranquille pour manger ». Mais s'il aime sa femme, il va se dire « mais zut, j'ai envie d'être en relation avec elle ». Et avec Dieu, c'est un peu la même chose. Dieu veut être aimé parce qu'il nous aime. Il nous aime parce que c'est dans sa nature d'aimer. Ce que nous faisons pour lui ne compte pas un besoin existentiel. Dieu n'a pas besoin de nos prières. Dieu n'a pas besoin de notre louange. Il n'a pas besoin que nous prêchions l'évangile. Il n'a pas besoin que nous donnions la dîme. Mais quand on le fait avec amour, cela lui plaît. Même lorsqu'on fait quelque chose par obligation. Des fois, on doit faire quelque chose par Dieu par obligation. Eh bien, même dans ces cas-là, Dieu nous demande de le faire avec amour. Alors j'entends certains de vous penser, mais bon, c'est vrai, Dieu n'a pas besoin de nous, mais quand même, si nous n'étions pas là, si la terre n'existait pas, il ferait quoi, Dieu? C'est long d'être assis tout seul dans le noir pendant une éternité. Que pouvait bien faire Dieu avant la création du monde? Alors certains répondent, ils préparaient l'enfer pour ceux qui posaient telles questions. Ah. En fait, c'est assez facile de répondre à cette question parce que la Bible nous donne la réponse. En Jean 17, Jésus est en train de prier et il dit à Dieu, « Tu m'as aimé avant la création du monde. » Avant la création du monde, Dieu ne s'ennuyait pas. Il aimait, le Père aimait le Fils. Il y avait une relation d'amour. Et la première caractéristique de Dieu, sa première qualité, c'est d'être un père. Et on le voit tout au long de la Bible. Exode 4:22, tu annonceras au Pharaon, voici ce que dit l'Éternel, Israël est mon fils aîné. Jérémie 31:9, en effet, je suis un père pour Israël et Éphraïm est mon premier-né. Psaume 103, verset 13. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Isaïe 63, verset 16. C'est toi cependant qui es notre père. En effet, Abraham ne nous connaît pas et Israël ignore qui nous sommes. C'est toi, Éternel, qui es notre père. C'est toi qui depuis toujours t'appelles notre libérateur. Et dans le Nouveau Testament, c'est encore plus clair que dans l'Ancien Testament. On lit souvent que Jésus appelait Dieu son Père, et on voit ensuite Paul et les autres auteurs du Nouveau Testament font de même. Supporter la correction, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Quel est le fils qu'un père ne corrige pas ? Hébreux 12, verset 7. Dieu est avant toute chose un père. Avant d'être un chef, il est un père. Une fois qu'il a créé le monde, il ne s'est pas dit, tiens, et si maintenant j'allais devenir père ? Ce serait une belle expérience après tout. Non, il était Père avant le commencement de toute chose. C'est pas comme nous, humains, qui devenons père ou mère lorsque nous avons un enfant. Il était père parce que de toute éternité, il a engendré le Fils. En tant que père, il a créé les cieux et la terre. En tant que père, il a fait les lois de la physique. En tant que père, il a prévu, avant la fondation du monde, que tu allais naître le 26 mars. Il a créé comme un père. Il gouverne comme un père. Alors, je sais que pour certains, un père est un personnage cruel, froid, distant, méchant. Dieu n'est pas ce père-là. Il n'abuse pas de son pouvoir pour faire du mal. Pour blesser. Il est père parce qu'il l'aime. Il donne la vie. Et nous appelons Dieu notre père parce que de toute éternité, il est père. De toute éternité, il donne la vie. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Car l'amour vient de Dieu et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. 1 Jean 4, versets 7 et 8. Dieu est Père et en tant que Père, il donne la vie, il donne la paix, il donne l'amour. Père, a dit Jésus, tu m'as aimé avant la création du monde. Et d'autres textes attestent de l'existence éternelle du Fils. Le Père est le Père du Fils éternel. Autrement dit, dans son identité, il est Père. Il met son identité dans sa paternité. Le Fils vient du Père et il ne vient pas comme une deuxième entité. Comme quelque chose qui existerait indépendamment du Père. Non, il est lié à son Père. Son but est de faire la volonté de son Père. C'est un peu comme la lumière. Ce serait absurde de vouloir séparer la lumière de sa source. Hein, dire il y a la lampe et il y a la lumière. On ne peut pas les séparer les deux. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu, et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que par lui, nous ayons la vie. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous, nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés, et nous a envoyé son Fils comme une victime expiatoire pour nos péchés. De toute éternité, Dieu est amour. Parfois, on a l'impression, quand on dit la Bible, que dans l'Ancien Testament, il y a un Dieu qui juge. Et dans le Nouveau Testament, il y a un Dieu qui est un Père. Je vous invite à relire l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau Testament. Parce que, il y a une réelle différence de la manière dont on peut connaître Dieu avant la venue de Jésus-Christ et après la venue de Jésus-Christ. Car Jésus est venu révéler le Père. Dieu, en envoyant Jésus, son Fils, a révélé toute la profondeur de son amour. Dieu n'avait pas besoin d'envoyer Jésus. Il n'avait pas besoin d'envoyer son Fils unique. Jésus n'avait pas besoin de venir sur terre. Il n'avait pas besoin de quitter son Père. Et pourtant, il l'a fait. Il est venu pour mourir sur la croix. Afin de nous donner la vie. Quand nous aimons Dieu, on n'aime pas Dieu parce qu'on pense que c'est une bonne idée, mais on aime Dieu parce que Dieu nous a aimés le premier. Il y a des fois où la croix nous saisit. Et il y a des moments dans notre vie où Dieu nous saisit par l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix. Pendant un instant, quelques minutes, une heure, on se retrouve comme scotché, ébahi par l'œuvre accomplie sur la croix. Cela arrive lorsque l'Esprit se saisit de nous. Quand l'Esprit nous saisit pour nous montrer à quel point l'amour de Dieu a été manifesté puissamment sur la croix. Et quand on est face à la croix, qu'on voit Jésus sur cette croix, qu'on voit tout cet amour qui a été démontré par cet acte, ben, on ressent au plus profond de nous-mêmes qu'on a besoin de lui, qu'il n'y a pas d'autre solution pour notre vie que lui. Et vous savez, quand on se met à l'écoute de sa parole, eh ben, son esprit nous parle. Et l'Esprit de Dieu ne veut pas nous mettre face à la croix, premièrement pour nous montrer nos échecs, notre péché, nos peurs, nos doutes. Son Esprit nous met à la croix, premièrement pour nous montrer la puissance de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Son amour pour toi ne peut pas être retenu. Et face à la croix, face à l'œuvre grandiose qui était accomplie, Jésus, le Fils de toute éternité, a accepté de descendre du ciel, de vivre une vie juste, sainte, parfaite, agréable à Dieu, et de finir sur un morceau de bois pour que tu puisses connaître l'amour de Dieu, pour que je puisse connaître l'amour de Dieu. Parce qu'il n'y a pas d'autre moyen que nos péchés soient effacés. Et quand on voit cet amour, ben on reconnaît notre misère. Mais il ne faut pas faire l'inverse. C'est premièrement la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance. Alors que vas-tu faire ? Dans un moment comme celui-ci, lorsqu'on reconnaît notre bassesse, notre faiblesse, notre péché, notre misère, lorsque l'Esprit nous saisit, lorsque son Esprit veut nous purifier, et qu'on est face à la croix, il n'y a plus rien d'autre qui existe. Et quand on reconnaît qu'on est pécheur, qu'on a besoin de cet amour, que c'est ce qui va nous combler au plus profond de nous-mêmes, ben, Dieu nous purifie, il nous libère. Lorsque Jésus s'est fait baptiser, Dieu a envoyé sur lui son esprit sous la forme d'une colombe. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Dieu a prononcé ces mots quand il a envoyé son esprit sur Jésus. Dieu a envoyé son esprit pour témoigner de son amour à Jésus. Parce que l'Esprit de Dieu embrasse l'amour du Fils pour le Père et manifeste l'amour du Père pour le Fils. L'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Romains 5, verset 5. Ne le savez-vous pas ? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est Père, Fils, et esprit de toute éternité, et son amour a été manifesté en Jésus-Christ. Et quand on entend ce commandement, tu aimeras Dieu, le Seigneur, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. On se dit, mais comment faire ? Comment est-ce possible ? Ben, c'est en acceptant son amour qui est premier dans notre vie qu'on va pouvoir respecter ce commandement. Lorsque je discute avec des gens qui ne croient pas encore en Dieu, un argument qui revient régulièrement, c'est « Pourquoi ma vie devrait glorifier Dieu ? Pourquoi l'homme devrait-il glorifier Dieu ? Et nous alors ? Notre vie ne vaut-elle rien ? En fait, Dieu, il est super égoïste parce qu'il veut la gloire pour lui seul. Et une réponse que j'ai souvent eu donnée, qui est très tentante, c'est de dire, mais c'est parce que Dieu est digne d'être adoré, et lui seul est digne d'être adoré, lui seul est digne de recevoir la gloire. Et Jésus répond un peu différemment à cette question. C'est en Jean 17, quand il prie son Père, Jésus leva les yeux vers le ciel et dit, « Père, l'heure est venue, révèle la gloire de ton Fils, afin que ton Fils aussi révèle ta gloire. Maintenant, Père, révèle toi-même ma gloire auprès de toi, en me donnant la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles. « Afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître encore, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi je sois en eux. Et Jésus dit, mais le Père va me donner toute la gloire. Jésus dit, le Père va donner toute la gloire à Jésus, et Jésus va partager sa gloire avec ceux qui croient en lui. Je ne sais pas si vous connaissez ce verset peut-être, Ésaïe 42, verset 8, « Je suis l'Éternel, voilà quel est mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni la louange qui m'est due aux sculptures sacrées. » Et on se dit, mais comment est-ce possible que Dieu donne sa gloire à son Fils ? Et dans ce texte qui est particulièrement intéressant, si vous lisez en Ésaïe 42, verset 1, il est question du serviteur de l'Éternel. Voici mon serviteur. Alors peut-être vous ne connaissez pas bien Ésaïe, je vous laisserai lire, c'est un livre absolument passionnant. Et il y a plusieurs, ce qu'on appelle chants du serviteur, où Dieu s'adresse à son serviteur. Et ce serviteur, il est en train de parler de Christ qui va venir. Et en Ésaïe 42, verset 8, quand il dit « Je ne donnerai pas ma gloire à un autre », il est en train de dire « Je ne donnerai pas ma gloire à un autre que mon serviteur. » Je vois un petit peu dubitatif, alors je vais juste relire les quelques versets précédents. Voilà, Ésaïe 42, verset 1. « Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu, en qui mon âme se complaît. J'ai mis sur lui mon esprit. Il présentera aux nations le droit. Il ne criera pas. Il n'élève pas le ton, il ne fait pas entendre sa voix dans les rues. Je lis juste quelques versets. Verset 6, il ne faiblira pas, ni ne cédera, jusqu'à ce qu'il établisse le droit sur la terre. Verset 6, « Moi, l'Éternel, je t'ai appelé dans la justice, je t'ai saisi par la main et je t'ai modelé. J'ai fait de toi l'alliance du peuple, la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour extraire du cachot le prisonnier et de la prison ceux qui habitent les ténèbres. » Christ est la lumière des nations. Christ est celui qui peut ouvrir les yeux des aveugles. « Je suis l'Éternel, tel est mon nom, ma gloire. Je ne la donnerai pas à un autre, ni mon honneur aux idoles. » Dieu partage sa gloire avec son Fils, et le Fils partage sa gloire avec nous. Vous vous rendez compte, Dieu nous a tellement aimés que non seulement il nous donne la vie éternelle, mais en plus il veut nous rendre participants à sa gloire. Et je me dis, mais il y a là une aventure qui nous attend. Dieu nous appelle à l'aimer. Il nous appelle à l'aimer parce qu'il nous a aimés le premier. Et on a le choix. On a le choix de reconnaître cet amour. Un amour qui ne changera jamais. Parce que c'est dans la nature même de Dieu d'aimer. Père, Fils, Esprit, un seul Dieu, qui de toute éternité partage un amour infini. Quoi qu'on fasse, cet amour ne changera pas, parce qu'il ne dépend pas de nous. Il nous appelle et il nous dit, mais Est-ce que tu vas m'aimer? Est-ce que tu veux m'aimer? Tu as vu comme je t'ai aimé. Il veut cette relation avec nous. Et il nous montre le bout du chemin. Il dit, mais au bout du chemin, sous la montagne, il y a un immense trésor. Ce ne sont pas des pièces d'or, ce ne sont pas des diamants. C'est ma gloire que je partage avec le Fils et que le Fils va partager avec toi. Alors comment allons-nous répondre? Est-ce que nous allons accepter cet amour et aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, de toutes nos pensées? Est-ce qu'on va rester chez soi? Parce que quand même, il y a des dangers là-dedans à faire ça. On ne sait pas ce qui nous attend sur la route. Il y aura des choses difficiles. On va se faire attaquer. Il y aura des trolls, des gobelins, des orques. Il y aura peut-être même des amis qui vont nous trahir sur le chemin. On aura peut-être le mal du pays. Et en même temps, si on reste chez soi, on va faire quoi? On va manger un bon poulet rôti dans notre assiette et on va perdre toutes les belles aventures, les amitiés qu'on va pouvoir partager en chemin, les trésors cachés que nous allons découvrir, les paysages absolument fantastiques qu'on va voir. Il y a quelque chose au fond de notre cœur qui désire une seule chose, accepter cet amour de Dieu manifesté sur la croix et aimer Dieu en retour avec tout ce que nous avons. Et lorsqu'on s'arrête au pied de la croix, qu'on contemple ce qui a été accompli, qu'on dépose nos fardeaux, que l'Esprit de Dieu nous purifie. Dieu nous regarde avec plaisir. On n'a pas besoin de culpabiliser parce qu'on n'aurait pas assez aimé Dieu. C'est justement ça, le miracle de la croix. C'est qu'en Jésus-Christ, nous pouvons réellement aimer Dieu de tout notre cœur. Parce que Dieu nous regarde au travers de Christ et la culpabilité n'a plus lieu d'être. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors, approche-toi de la croix, laisse-toi saisir par l'Esprit et accepte simplement ce que Dieu veut te donner. Je vais prier. Seigneur, ce matin, tu nous parles de ton amour infini, insondable. Seigneur, je te prie de déverser ton esprit ce matin pour que nous soyons capables, ne serait-ce qu'un instant, d'avoir une toute petite idée de ce que tu as accompli sur la croix. Seigneur, montre-nous la puissance de ton amour. Et face à ton amour, nous voulons reconnaître que nous ne le méritons pas, que nous sommes pécheurs, que nous sommes misérables. Et nous voulons laisser tout cela à tes pieds. Nous te demandons de venir nous purifier par ton esprit, afin que nous soyons libres. Libres de commencer cette aventure avec toi. Libres de nous engager sur ce chemin d'amour. Seigneur, ce trésor qui nous attend, la vie éternelle et une gloire partagée avec toi, nous fait rêver. Nous voulons t'aimer de tout notre cœur. Amen.